Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Bienvenue, 8h49, les grands débats. Ce matin, on va revenir avec Alexis Poulain et Elisabeth Lévy sur la campagne présidentielle, en tout cas l'annonce de la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, de celle de Jean Lassalle, bien sûr, et puis le congrès des primaires, voilà, les primaires de la droite,
on va parler, en fait, d'Éric Zemmour. Peut-être d'un mot, quand même, de cette candidature de Jean Lassalle. Il est toujours là, et il y croit. Alexis Poulain, qu'est-ce que vous pensez? En fait, il a toujours quand même cette volonté de représenter les Français. À un moment donné, il voulait endosser, entre guillemets, le gilet jaune pour dire, voilà, moi je les comprends, etc. Mais... Et je viens, en fait, de cette France, puisqu'il laboure la France lui-même.
Lui, il laboure la France. Ouais. Mais je crois qu'il a cette case candidat de la ruralité des territoires. Et donc, il essaye de tenir ce rôle-là. Après, c'est un élu qui est visible, qui dénote par rapport à ces députés godillots qu'on a vus pendant le quinquennat Macron. Donc c'est sûr que quand Jean Lassalle débarque quelque part, on le remarque. Et faire campagne, il le fait sans doute sans penser qu'il pourrait être au second tour, il le fait en défendant ses idées, comme d'autres petits candidats qui malheureusement n'ont pas accès aux médias.
Oui, c'est ce qu'il disait, lui. On a très peu accès aux médias. J'ai accès, en fait, à Sud Radio, comme nous, on invite et on invitera, en fait, les autres, Arthaud, etc. Bien sûr, en permanence, parce qu'il faut entendre, en fait, tout le monde, quoi. Elisabeth Lévy, à ce sujet.
Moi, j'aime beaucoup Jean Lassalle. J'ai beaucoup aimé son entretien, cher Patrick. J'ai trouvé ça. Non, mais il y a quelque chose. D'abord, je crois qu'il est sincère.
Oui.
Et je crois que derrière, si vous voulez, le côté un peu rigolo, le côté, il y a un véritable amour quand même de son pays. Et puis, effectivement, comme l'a dit Alexis, de cette France rurale, si vous voulez, qui est souvent un peu désertée et délaissée par nos élites, à part pendant les périodes électorales. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de, comment dire, de rafraîchissant dans cette sincérité et je crois qu'il est tout à fait convaincu et sans doute je crois que les gens l'aiment beaucoup d'ailleurs sinon il ne serait pas réélu.
C'est vrai. Bon, après pour l'instant il est à 1% d'intention de vote dans les différents instituts. Il dit que s'il avait plus de visibilité dans les médias il pourrait faire davantage. Bon, en tout cas il existe quand même, il est là. Alors venons-en aussi à Éric Zemmour parce que avec lui, on a commenté aussi la candidature d'Éric Zemmour. Et sur la posture gaulliste, autant il dit Zemmour exprime une certaine colère de certains Français. En revanche, il est plus critique sur la posture gaulliste qu'a voulu endosser hier dans sa vidéo Éric Zemmour en disant que De Gaulle, c'est De Gaulle, quoi. Donc ça ne sert à rien de l'imiter, quoi.
Bah oui, c'est clair que c'est ridicule même d'essayer d'imiter De Gaulle. Tout le monde s'en réclame aujourd'hui. Il y a quelque chose un peu de facile, même d'amateur, à vouloir faire ça. C'est pas parce qu'on met un micro vintage et qu'on lit son discours qu'on va faire référence à l'appel du 18 juin. Donc, c'est la limite de cet exercice. Et puis, De Gaulle, c'est un moment, c'est une histoire de France. C'est extrêmement important, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il s'ensuit après ça? Enfin, on ne peut pas s'arrêter à l'expérience, à l'image de cet homme-là. Je crois qu'il a raison de dire il y a l'héritage. Ouais. Tout le monde s'en réclame, c'est assez, assez grotesque finalement, puisqu'on a changé de monde. Et aujourd'hui, il faut connaître l'histoire pour avancer, bien sûr, mais il faut aussi regarder devant et savoir où est-ce qu'on veut aller maintenant.
Oui, Elisabeth Lévy.
Moi, je trouve pas que cette référence à De Gaulle, alors bon, après, de la posture, est-ce qu'il fallait le micro, etc., je vous l'accorde, mais je trouve pas que cette référence soit ridicule en tant que telle, parce qu'au contraire, je pense que, évidemment, l'histoire, on n'est pas dans la même situation, il n'empêche que la situation est peut-être un peu comparable, si vous voulez, parce que qu'est-ce qui se passe en 40? En 40, la France est menacée de disparition. Voilà, et alors, en tous les cas, après, on peut en discuter, moi, j'ai plutôt tendance à penser que oui, c'est peut-être un peu moins, c'est moins grave dans le sens où il n'y a pas d'occupants, il n'y a pas d'armée, l'armée allemande, bien sûr. Mais il y a quand même une menace de disparition ou de délitement, comme le disait la Tribune des Généraux, qui me semble à moi réelle. Et donc, je ne trouve pas que cette référence soit ridicule.
Ah non,
après
c'est
tout,
la référence,
c'est
elle
pas
est
le seul
nécessaire.
Appeler, c'est pas le seul à appeler à un sursaut. Mmh. C'est pas le seul à se dire que... comment dire, il y a beaucoup de Français qui ont quand même le sentiment... Si vous voulez, que leur pays peut disparaître, qu'il y a aussi un risque de guerre civile, hein, qui existait d'ailleurs dans la France de la Seconde Guerre mondiale. Donc, non, je ne trouve pas cette référence totalement absurde, je dois le dire.
D'accord. 0826-300-300. Elisabeth,
après,
Alexis.
N'est pas de Gaulle qui veut. Ça, c'est tout à fait autre chose.
Voilà, mais c'est ça.
Restez avec nous.
Oui, restez avec nous. 0826-300-300.
Bah, le témoignage de Colette qui nous appelle de Gironde. Bonjour, Colette.
Bonjour, Colette.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bon,
bonjour.
Et alors bonjour. Est-ce que vous avez vu la vidéo d'Éric Zemmour ou son intervention et peut-être son intervention sur TF1, enfin son intervention, son interview hier soir?
Oui, bien sûr. Je n'ai absolument rien raté de ce qui concerne Éric Zemmour.
Bon, d'accord. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé?
Oh, j'ai pensé que l'opposition en général n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour arriver sur tout un discours avec les sujets importants qu'il aborde. De le comparer un peu à Trump et puis maintenant à De Gaulle.
Ouais.
On n'a pas cherché les mêmes histoires à Macron quand il jouait les Obama avec la main sur le cœur qui ne signifie rien. Il n'a pas mon maillot sur la plage. Il ne ressemblait pas du tout à Michel Obama, mais bon. Voilà, c'est décourageant. Mais je pense quand même que ça reste un avantage pour Éric Zemmour, c'est qu'ils n'ont rien d'autre à... Ils ne peuvent pas le reprendre sur le fond.
Finalement, certains veulent... ça le victimise et pour lui, ça peut être favorable parce qu'on peut le défendre. Quoi. C'est ce que vous lui dites. Finalement, ça renforce chez vous la notion en fait, de défense d'Éric Zemmour, quoi, Colette.
C'est mon avis.
Ouais, c'est votre avis.
Sur le fond de son programme, dès qu'il n'a pas eu la possibilité d'exposer du reste. Mais on le reprendrait sur le fond de son programme, je comprendrais les discussions.
Ouais.
Et qu'on allait chercher des à côté, ça me paraît une petite fuite. Quoi.
Ouais. Bon, merci Colette de votre témoignage, 0826-300-300. Vous nous appelez, vous voulez réagir sur Éric Zemmour. Comment vous avez trouvé son intervention, son entrée en campagne hier, avec d'un côté cette vidéo? Alors certains disent, il y a trop de nostalgie, il y a des images volées, etc. Ou alors, hier, est-ce qu'il a été bien secoué ou pas bien secoué, entre guillemets, hein, par Gilles Boulot lors d'une interview du 20h? Bah, vous réagissez, 0826-300-300. On en débat aussi avec Alexis Poulain et avec Elisabeth Lévy, bien sûr.
Et vous.
Et tout à l'heure aussi, à 9h15, restez bien avec nous, avec une chercheuse qui sera avec nous, qui a mis au point un nouveau traitement anti-Covid. C'est Odile Duvaux qui a été lauréate des trophées optimistes avec le magazine Eco Réseau Business. Elle sera là tout à l'heure à 9h15. Vous pourrez appeler également.
Les lauréats à partir de 9h45. À tout à l'heure.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Beaucoup d'appels au standard ce matin, 0826-300-300 pour les grands débats avec Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. Continuez de nous appeler, on évoquait la candidature à l'élection présidentielle d'Éric Zemmour. Et le factuel dans quelques instants avec Félix Mathieu.
Oui, parce qu'il y a plusieurs choses évidemment. Elle a été en deux temps cette candidature d'Éric Zemmour et elle sera même en d'autres temps hein, puisqu'il va y avoir le meeting qui va arriver dans quelques jours au Zénith et puis bien sûr ensuite d'autres interviews probablement. En tout cas, Éric Zemmour, qui avait déjà bousculé cette campagne en arrivant au mois de septembre, et qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, c'est vrai qu'il était un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Là, une nouvelle fois, par la méthode avec hier sa vidéo et ensuite l'interview de 20h, ça change aussi un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Avant de voir le factuel avec vous, Félix Mathieu, il y a tellement de monde au standard qu'on va prendre...
le premier, Renaud qui nous appelle...
Première réaction, c'est Renaud. Hein. Oui. Soyez bref, en fait, dans vos réaction pour nous dire comment vous trouvez cette entrée en campagne d'Éric Zemmour. C'est Renaud. Bonjour Renaud.
Qui nous appelle de Rodez. Bonjour Renaud.
Bonjour sur Radio, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, je vais faire très court. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde derrière moi. concernant Monsieur Zemmour, je vais rester poli. honnêtement, voilà, vous l'avez dit, depuis septembre, on sait, ouais, on sait que les médias mainstream, tous sans exception, les auditeurs, les spécialistes, etc., tous, on a mis notre grain de sel là-dedans, on a fait en sorte qu'il soit maintenant là où il est maintenant, y compris le CSA, hein, en lui coupant sa place sur CNews. Donc, j'ai envie de dire, il y a rien d'étonnant à tout ça. Maintenant, est-ce qu'il ira au deuxième tour? Ça, ça, c'est le grand point d'interrogation, je ne sais pas. Concernant les Républicains, honnêtement, moi, je sais pas qui va sortir de tout ça là dans quelques jours. Et honnêtement, à l'heure actuelle, pour moi, plus le temps passe, plus ils se rapprochent de l'extrême droite en fait, petit à petit. Hein,
les Républicains, les Républicains.
Voilà, c'est ce que voilà. Ouais. Donc que ce soit Zemmour, que ce soit les Républicains, à l'heure actuelle, je dirais pas que c'est bon, blanc bonnet blanc, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ça devient de plus en plus dangereux. Et ça fait la part belle pour, effectivement, le Rassemblement national, pour la France insoumise et aussi pour Macron.
Ouais. Merci, hein, Renaud. Vous auriez pu faire la chronique à la place l'édito d'Alexis Poulain ce matin. Hein. Vous avez dit un peu la même chose. La droite en travaux, c'était ça en quelque sorte. Quoi,
C'est plus la droite en travaux, là. C'est vraiment le grand chantier de la droite.
C'est vrai, du sol au plafond. Allez, autre auditeur en fait en ligne avec nous. Bonjour, qui est en ligne?
Jean-Paul.
C'est Jean-Paul de Draguignan. Bonjour,
oui.
Jean-Paul.
Bonjour à tous et à toutes. Oui. Mais écoutez, moi je suis ravi de la prestation d'Éric Zemmour. Oui. Voilà. Oui. Il a été clair, il a été réaliste, il a été humain et il a été français. Oui. Avant toute chose, j'ai envie de dire. Et toute cette polémique, je voudrais dire que quoi qu'il ait pu faire, quoi qu'il ait pu dire, de toute manière, les choses auraient été la même.
Oui.
Toutes les vomissures à son endroit... tout cela devient insupportable. Voilà. Si ce n'est pas du débat, ce ne sont, comme il a dit lui-même, que des crachats, que des vomissures. Enfin, je trouve tout ça pitoyable. Tous ces soi-disant pseudo-journalistes qui sont sans arrêt contre lui et qui n'ont rien à dire, qui n'ont rien à étayer. Ouais. Voilà, maintenant, on s'attaque à la vidéo qu'il a fait, enfin, à toutes ces images sont publiques. Il suffit d'aller sur Internet pour les trouver, de toute façon. Mmh. Voilà, on crée des polémiques où il n'y a pas lieu d'y en avoir, au lieu de créer le débat.
Bon, mais il viendra. Jean-Paul, il y aura le temps du débat aussi. Oui. Ça va venir, parce que finalement, on a quand même du temps devant nous. Merci en tout cas de votre réaction. Voilà. Guillaume est avec nous de Carcassonne, je crois. Hein. Bonjour, Guillaume.
Oui, allô, est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien, Guillaume. Faites-nous part de votre réaction. Oui.
C'est parce qu'il y avait un petit peu de bruit autour de moi. J'essaie de leur demander de faire moins de bruit parce que je suis sur Sud Radio. On va voir s'ils m'entendent.
Ah ben, bon, on vous entend. Oui.
Allez, parfait. Non, Patrick, je voulais juste voir, justement, par rapport à la candidature de Zemmour, pas pour parler de Zemmour une fois de plus, parce que j'étais déjà intervenu pour dire qu'on parlait trop de lui alors qu'il n'était pas candidat.
maintenant, ça y est.
Maintenant, ça donne un peu une excuse de parler de lui. Mais par contre, je voulais voir pourquoi jamais François Asselineau n'avait été invité, alors que ce dernier a été candidat il y a plusieurs mois, et il a un programme, lui, sur lequel on pourrait parler, contrairement, justement, un peu...
Mon cher Guillaume, on va l'inviter. Sachez que nous sommes en contact et qu'il sera bientôt aussi, on l'invitera pour lui donner la parole, parce que nous donnons la parole à tout le monde. C'est ça, en fait, la démocratie, et on lui donnera la parole. Ça, vous pouvez en être assuré.
Vous voulez l'inviter aussi. Mais j'attends avec impatience ce moment-là, mon cher Patrick.
Merci à vous. De Fontainebleau, maintenant. Nous étions à Carcassonne et on va du côté de Fontainebleau avec qui est en ligne? Philippe. Bonjour, Philippe de Fontainebleau.
Bonjour Sud Radio, bonjour.
Vous vouliez réagir aussi à cette entrée en campagne d'Éric Zemmour. Hein. Il y a des dizaines d'appels, évidemment, donc on ne prendra pas tout le monde, mais on essaie de vous donner la parole. Allez-y, mon cher Éric. Philippe.
C'est pas grave. Okay. écoutez, moi j'ai suivi ça comme tout le monde. Bon, Éric Zemmour, il s'est déclaré, maintenant il est candidat, mais bon, voilà. Maintenant, moi ce que je vois une chose, c'est que. Le tribunal médiatique de tous ces gens qui aujourd'hui ont la bouche en cœur, de l'extrême gauche jusqu'à on va dire à la classe politique au pouvoir, Macron, là aujourd'hui ils vont n'avoir qu'une chose, c'est quand avant il n'était pas candidat, il n'a pas de programme à proposer, aujourd'hui il veut parler de son programme, on n'essaye pas de voir au moins ne serait-ce qu'une idée qui pourrait sortir de son programme. Donc Donc tout ça est en train de se mettre en place. On attaque sa vidéo sur des pseudo-images qu'il aurait utilisées et en plus qu'il n'aurait pas respecté le fond des images utilisées. Enfin bon, voilà, tout ça c'est en place. Moi je vous dis une chose. Moi pour l'instant je sais pas pour qui je vais voter. Je vais écouter, je vais regarder. En tout cas il y a un truc qui est sûr. Le débat politique à droite il est posé, il va se faire. Eux ils sont. Zemmour au moins il a cet avantage, c'est qu'aujourd'hui il met des choses sur la table et à droite ils vont. On voit bien comment déjà les LR se sont positionnés. Voilà. Donc le débat il va se faire à droite. Qui sortira du chapeau, on n'en sait rien. Par contre à gauche, à part crier au fascisme, tout ça, il n'y a rien. C'est du néant, c'est du vide.
Bon. Merci Philippe. Merci Philippe de votre réaction. Vous êtes très nombreux à nous avoir appelés. On vous donne la parole, on continuera de vous donner cette parole. C'est vrai que certains disent, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, que hier soir aux 20h, c'était pas une interview, c'était un tribunal médiatique. Elisabeth, peut-être vous dans un premier temps et ensuite
oui,
Alexis, alors, vous répondrez.
Vous avez dit qu'un de nos auditeurs avait fait l'édito d'Alexis Poulain. Il y en a un autre qui a à peu près fait le mien.
Ouais, bah,
donc,
ouais.
Voilà. Merci pour cette équité. Non, mais moi, je suis assez frappé, si vous voulez, par la sottise de certains médias. Enfin, l'interview d'hier, oui, c'est vrai que Gilles Bouleau voulait surtout nous montrer, si vous voulez, montrer à quel point il ne mangeait pas de ce pain-là. Donc, c'était très important pour lui.
Il pose des questions en même temps. Il est... Quand on est dans une position d'intervieweur, on est là pour jouer un peu l'avocat du diable, quoi, entre guillemets.
Mais
enfin,
mais
j'ai
bon,
diable
pas,
entre guillemets,
si
parce que
voulez,
sinon ça va être mal interprété
non,
encore.
Mais cette histoire, de, si vous voulez, c'est, j'ai cité Libération de ce matin, le chroniqueur misogyne, péténite et racisme. Si vous voulez, en plus, un, c'est stupide, si vous voulez, parce que bon, on va pas reprendre point par point, mais... c'est stupide, comme le dit Alain Finkielkraut, on peut combattre Éric Zemmour, mais il faut le combattre par la vérité, avec la vérité en tous les cas, pas en racontant n'importe quoi. Et en plus, c'est totalement contre-productif. Est-ce qu'il pense vraiment empêcher une seule personne de voter pour Zemmour? Donc
oui,
c'est une espèce de...
contre-productif,
c'est vraiment le théâtre.
Oui.
C'est vraiment l'antifascisme d'opérette.
Ah ouais. C'est Alexis Poulain. Vous avez déjà... mais le temps est compté, Elisabeth, hein, parce qu'il y a eu énormément d'appel, hein, vous le savez. Oui. Alexis.
Moi, je trouve effectivement cette opposition vide de sens. Enfin, on ne peut pas comme ça répéter des mantras et penser que ça va suffire pour débattre des idées d'Éric Zemmour. Il faut débattre des idées. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, là-dessus, l'opposition, même les journalistes, enfin, on sent que tout le monde est désarmé. Sur l'interview de Bouleau, ça montre une chose, c'est que le candidat Zemmour n'est pas prêt. Il est impréparé, parce que même face à des questions déstabilisantes ou difficiles, on doit être capable de rebondir, d'emmener le journaliste là où on veut, de pouvoir dérouler quand même son projet, son programme. Et là, on voit bien qu'il n'était pas prêt. Il sort des plateaux de CNews où là, c'était lui la star. Et là, il devient le candidat. Ouais. C'est tout à fait autre chose. Donc, il y a un travail sans doute qui va le faire. Ça prendra du temps, ce qu'il y a derrière lui, c'est vraiment une fanbase énorme où dès qu'il dit quelque chose et qu'il est attaqué, vous avez des fans de Zemmour qui vous tombent dessus en disant... Ouais. C'est lamentable. De là à dire, non, sur Twitter, Gilles Bouleau a été taxé de journaliste gauchiste. C'est quasiment le Che Guevara de TF1. Enfin, il a juste fait une interview de Zemmour.
Bon, allez, à chacun de juger. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui doit être remarqué. C'est le choix de la méthode aussi avec la vidéo, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Voyons avec vous, Félix Mathieu, dans notre factuel ce matin. Parmi les anciens présidents, même les plus récents, aucun n'avait choisi une telle méthode pour la déclaration de candidature. C'est vrai qu'il n'y avait pas non plus autant d'images et que Internet avait peut-être moins de puissance, tout de même.
En novembre 2006, par exemple, Nicolas Sarkozy annonce sa candidature dans une interview à la presse quotidienne régionale, un peu finalement à la manière de Jacques Chirac en 95, qui lui avait annoncé par un coup de fil au rédacteur en chef de La Voix du Nord. Le même Jacques Chirac qui, par contre, avait annoncé sa candidature pour 88 via une vidéo enregistrée depuis son bureau de Premier ministre, un peu comme Édouard Balladur, 7 ans plus tard pour la présidentielle de 95. Il faut croire que le bureau, ça porte pas ses chances pour la suite. Emmanuel Macron, en tout cas en 2016, lui, il avait fait depuis une tribune, un peu en mode meeting. Autre méthode pour déclarer sa candidature, celle des campagnes victorieuses de François Hollande en 2012, ou avant lui, Valéry Giscard d'Estaing en 1974, le bon vieux discours devant les caméras, entouré par ses supporters, dans son fief, Tulle, en Corrèze, pour François Hollande, et puis Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, pour VGE.
Je m'adresse à vous, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République française.
Devant vous, mes amis, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle à travers la primaire du Parti socialiste.
Voilà. Alors pour ce qui est des présidents sortants, Nicolas Sarkozy a annoncé sa candidature à sa réélection dans une interview au journal télévisé en 2012, tout comme Mitterrand, 88, qui s'est contenté d'un simple oui en réponse à une question du journaliste. Quant à Jacques Chirac en 2002, eh bien une mise en scène un peu avait été imaginée. C'est la maire d'Avignon qui lui avait posé la question lors d'une réunion publique devant les caméras. Il s'est alors un peu fait prier, quoi, comme si il se dévouait finalement pour rempiler, encouragé en ça par ses supporters.
Bon, merci Félix Mathieu, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy et vous au 0826 300 300, vous pouvez continuer d'appeler parce que tout à l'heure on y reviendra largement dans les débats avec Valérie Expert entre 10h30 et 11h et puis chez André Bercoff ce midi et dans les vraies voix ce soir, bien sûr évidemment ça va faire beaucoup causer,
oui.
Mais là on voudrait revenir dans un instant avec notre invité aussi sur le Covid avec une médecin chercheuse qui travaille sur un traitement et elle va nous raconter bien aussi le parcours du combattant parce que c'en est véritablement du parcours du combattant pour essayer de mettre en place ses traitements et de les faire reconnaître. Elle sera avec nous, Odile Duvaux, dans un instant.
0826 300 300, si vous voulez bien sûr poser des questions, on vous attend au standard. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h19, merci d'être avec nous. On voulait vous présenter une personnalité atypique pour, sur plein de choses. Dans un instant, on va parler des trophées de l'Optimiste 2021 dans la catégorie électron libre qu'elle a remportée. Merci d'être avec nous. Odile Duvaux, médecin, directrice générale de la start-up Zenotera. Et à propos de une mise au point d'un nouveau traitement anti-Covid.
Oui, bonjour Odile Duvaux.
Bonjour.
Bonjour Patrick.
Vous êtes médecin, directrice générale de cette start-up Zenotera. Donc vous avez reçu hier soir le prix que vous partagez aussi avec un lauréat qui sera avec nous tout à l'heure. Le prix en fait d'éco-business, d'éco-réseau business, trophée optimiste. Parce que vous faites partie de ces gens, entrepreneurs, qui ne s'arrêtent jamais, même devant parfois des échecs ou des barrières. Eh bien vous continuez d'avancer. Alors vous travaillez sur, dans une entreprise dans thèse, à la mise au point d'un anticorps polyclonal contre le Covid-19. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un anticorps polyclonal? On va prendre une petite leçon de médecine, peut-être, avec vous.
Alors, je vais essayer d'être simple et accessible.
Pédagogue.
Alors, d'abord, il faut savoir qu'un anticorps polyclonal, c'est ce que nous fabriquons tous. Donc, quand je suis, attaquée par un virus ou un corps étranger contre lequel je fais des anticorps, je fais des anticorps polyclonaux. Autrement dit, un anticorps polyclonal, c'est la réponse normale d'un individu qui se défend contre un agresseur. Alors maintenant, en thérapeutique, on a depuis en gros 40 ans privilégié des anticorps de synthèse qui sont des anticorps dits monoclonaux qui sont extrêmement précis. Alors la grande différence, je vais essayer de l'illustrer par une image qui est celle d'une montagne. Imaginez que vous cherchez à viser une montagne et que sur cette montagne, il y a un rocher bleu. Vous fabriquez un anticorps monoclonal, vous pouvez reconnaître le rocher bleu sur la montagne. Par contre, vous fabriquez, comme normalement, un anticorps polyclonal contre cette montagne. Vous allez fabriquer 1000 anticorps différents, 10 000 anticorps différents, qui vont attaquer la montagne par tous les côtés. Il y en aura contre le rocher bleu, mais il y en aura aussi contre le sommet, contre la base, contre le nord, contre l'est, contre l'ouest, etc. Vous avez compris. Alors maintenant,
donc ça balaye en fait.
Ça balaye tout. Mmh. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin parce que on va reprendre l'exemple de la montagne avec les variants du virus, du virus de la Covid. Donc quand un variant apparaît, la montagne change un tout petit peu. Par exemple, il n'y a plus le rocher bleu. Donc, quand vous êtes avec un anticorps monoclonal dirigé contre le rocher bleu, votre anticorps ne marche plus du tout.
Parce qu'il ne le trouve pas.
C'est-à-dire qu'il ne le trouve pas. Alors que l'anticorps polyclonal, il va peut-être perdre un 10 000e de sa puissance, mais il va continuer à le traiter. Donc, l'intérêt du polyclonal, c'est un, il est la réponse normale, donc il ressemble beaucoup plus à notre réponse naturelle. Il est naturel, voilà. Deuxième intérêt, il n'est pas sensible aux variants. Or, aujourd'hui, on sait que sur ce virus, le problème des variants est un problème très épineux.
Alors, et est-ce que ce médicament est mis au point, là, aujourd'hui? Vous en êtes où par rapport à ça?
Alors, ce médicament est mis au point, mais il n'est pas encore au stade de l'autorisation. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mis au point? Ça veut dire qu'on sait le fabriquer, que on sait le produire même à échelle industrielle et que on en a produit aujourd'hui plus de 20 000 doses qui sont à la disposition des patients.
Alors ça c'est bien pour la mise au point, mais est-ce que après il est efficace ?
Alors voilà la question de. Alors non, il y a deux questions. Il y a efficace et sécure, c'est-à-dire toléré, bien toléré. Alors pour ça, on fait plusieurs étapes, hein, vous le savez, dans le développement. On commence par regarder s'il est efficace dans, j'allais dire, le tube à essai, c'est-à-dire dans le laboratoire. Première étape. Donc là, oui, parfaitement efficace, y compris contre tous les variants actuellement en circulation. On attend les tests sur le variant Omicron. Bon, on a besoin de quelques jours quand même.
Ouais.
Deuxièmement, on fait une deuxième série de tests où on teste s'il est efficace sur ce qu'on appelle des modèles animaux, là, en l'occurrence des souris, à qui on administre le virus pour voir s'il les protège du virus. Donc là, de nouveau, notre médicament, qui s'appelle le XAV19, est efficace dans la souris, à la fois pour traiter la souris, c'est-à-dire la guérir quand elle est malade, ou pour empêcher l'administration du
quel
virus.
Quel que soit le moment où c'est administré,
c'est
si la, le
je
virus...
Je parle de souris.
Oui,
je parle de souris.
De souris, oui.
Alors maintenant, on arrive chez l'homme. Donc on arrive chez les malades. Hein, donc je rappelle qu'un médicament, un traitement, notre médicament qui est un traitement, il s'adresse aux gens qui sont malades. C'est très très important. Hein, et non pas comme le vaccin qu'on administre à toutes les personnes, y compris celles qui ne sont pas malades.
Ouais.
Et par ailleurs, nous avons choisi de faire un médicament pour des patients qui étaient déjà suffisamment avancés dans la maladie pour avoir un risque assez conséquent d'être réellement malade et d'aller notamment en réanimation. Alors là, on rentre dans quelque chose qui est plus compliqué, qui est l'évolution de la maladie Covid, qu'on découvre au jour le jour. Hein. On ne sait pas tout, ça fait peu de temps qu'elle est là, les médecins s'activent, etc., mais on ne connaît pas tout. Dans la maladie, vous avez plusieurs stades. Vous avez un stade, j'allais dire, vous connaissez sûrement des personnes de votre entourage qui ont vécu ça, où on perd le goût, éventuellement on perd l'odorat, on contracte le virus, hein, et on fait un rhume, pour certains une grippe, et au bout de 4-5 jours, ça va mieux, et c'est réglé. Hein, donc ça, c'est la maladie au stade léger. Et puis, il arrive, malheureusement, pour un faible pourcentage de gens, heureusement, que la maladie s'aggrave, en général, entre le 6e et le 9e jour. Et là, on commence à avoir des signes respiratoires. Et c'est à ce stade-là que le XAV19 s'avère intéressant. C'est-à-dire au moment où les personnes commencent à avoir une atteinte pulmonaire. Et puis ensuite, donc ces personnes en général vont à l'hôpital, sont susceptibles d'être mises sous oxygène. Et ensuite, pour là encore un nombre limité de gens, c'est-à-dire en gros moins de 20%, il peut y avoir un deuxième stade d'aggravation. Et là, on passe au stade sévère, voire critique, où les gens vont en réanimation, en tout cas sont mis sous oxygène à très haut débit, pour essayer de compenser le manque d'efficacité de leurs poumons. Je reviens au XAV19.
Bah oui, le XAV19 que vous avez mis au point.
Donc les traitements aujourd'hui, ils s'adressent à la maladie dans l'ensemble des phases. Donc vous avez une phase initiale où c'est surtout contre le virus qu'il faut lutter, et vous avez une phase plus tardive où là, il faut lutter contre l'inflammation. Le XAV19, il est au démarrage de l'inflammation, au moment où il y a encore beaucoup de virus, et parce qu'il a un effet anti-inflammatoire. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On est en train de faire des essais cliniques sur des patients à ces différents stades de la maladie. Donc, on a un certain nombre de résultats, pas des résultats entiers.
C'est-à-dire, pas des résultats entiers ?
Et ben, c'est-à-dire que quand vous faites un essai clinique, vous avez énormément de données, et il faut donc les traiter, les analyser de façon extrêmement fine, et c'est ça que nous n'avons pas complètement.
Auprès de combien de personnes
Alors, donc, nous avons, d'une part, fait une première phase où on vérifiait l'innocuité seulement du médicament, hein, avec 20 patients. Ensuite, nous avons fait une phase avec 400 patients, ensuite une phase avec 20 patients, et puis maintenant, nous sommes dans un essai européen où il y aura 700 patients. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore 700. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vous ai parlé d'efficacité. Donc, l'efficacité, ça consiste à mesurer un certain nombre de critères sur les patients. Donc là, nous avons les premières indications, je ne peux pas donner les chiffres, encore confidentiel, qui montrent que, dans une catégorie de patients qui est celle que nous visons, effectivement, le XAV19 produit les effets attendus, c'est-à-dire qu'il réduit le risque d'aggravation.
Ouais.
En parallèle de ça, il y a tout ce qui est sécurité. C'est extrêmement important. Et donc, pour la sécurité, là, pour le coup, on regarde tous les effets secondaires secondaires, tous les effets indésirables qu'on a pu observer pendant les essais cliniques. Et là, nous sommes aujourd'hui totalement rassurés parce que le médicament n'a pas produit d'effets secondaires graves, donc ne présente pas de risque, ce qui est quand même le plus important.
C'est important. Ouais, ouais. Voilà. Alors, ce qui veut dire que donc, vous êtes en train de le mettre au point, vous êtes dans la dernière phase, et ensuite, pour qu'il soit éventuellement mis sur le marché, quand est-ce qu'il peut arriver sur le marché et comment le XAV-19?
Et quels sont les freins, surtout, aujourd'hui?
Alors, comment il arrive sur le marché? Il y a plusieurs étapes. Il y a une étape de ce qu'on appelle, l'étape ultime, c'est ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, ou AMM, je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens connaissent ce sigle, qui est donné par l'Europe. Donc ça, c'est quelque chose, aujourd'hui l'Europe fait des efforts pour autoriser les médicaments, mais en général, ça prend quand même plusieurs mois. Ouais. Pour une petite entreprise comme Xenothera, c'est une démarche aussi très lourde en matière de ressources. Et avant cela, les États, notamment en Europe, sont autorisés à dispenser ce qu'on appelle des autorisations. On appelait ça des autorisations temporaires d'utilisation. Aujourd'hui, on appelle ça des autorisations d'accès précoce, qui sont des autorisations de compassion.
Alors là, ça veut dire qu'on accélère le temps.
C'est-à-dire qu'on dit, mais écoutez, d'accord, vous pouvez l'administrer au patient. Pour cela, les agences, il y a des agences qui font ça, au niveau national, on va y venir en France, et ces agences raisonnent de la façon suivante. Premièrement, il faut aucun risque, donc une tolérance, une sécurité parfaite pour le médicament, que toutes les données de sécurité soient analysées et validées. Et puis, il faut une bonne présomption d'efficacité. Et là, les agences peuvent, à ce moment-là, dire, écoutez, on pense que c'est efficace, on n'a pas encore les nombres de patients suffisants, donc on peut raisonner sur quelques dizaines de patients alors qu'il faudrait en avoir plusieurs centaines. Et donc, on vous donne déjà une autorisation, on s'autorise déjà à en faire bénéficier les patients. Alors, ça, c'est en particulier sous réserve que pour ces patients-là, il n'y ait pas de traitement. Et pas d'autres traitements.
Et juste une question, ce sera dans le cadre des centres hospitaliers ou en pharmacie?
Alors, dans le cadre des centres hospitaliers, donc le principe, c'est que le XAV-19, il est administré à quelqu'un qui va venir à l'hôpital ou dans une clinique, bien sûr, parce qu'il démarre un Covid avec les premiers signes pulmonaires, il reçoit une perfusion qui dure une demi-heure à une heure et éventuellement, il rentre chez lui après.
Oui. Et ça, à partir de combien de temps il pourrait être sur le marché, alors, ce XAV-19? Pourquoi? Puisque visiblement, ça avance quand même assez sérieusement et que l'on dit aujourd'hui qu'il faut lutter, qu'on est engagé dans une véritable guerre contre le Covid-19. Oui, pourquoi ça ne va pas plus vite?
Alors, je vais vous retourner la question. Oui. Pourquoi ça ne va pas plus vite? Je profite de cette interview pour poser la question. Oui. Pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, alors que nous avons depuis maintenant plusieurs semaines alerté le ministère de la Santé, les conseillers santé du président de la République sur le fait que nous ne comprenions pas pourquoi les choses ne peuvent pas être débloquées.
Surtout que c'est un traitement français.
Voilà. Eh bien, ce pourquoi nous n'avons pas encore la réponse. Donc, je vous remercie de me poser la question.
Non, mais il y a des contacts quand même, mais on ne vous apporte pas de réponse.
Eh bien, écoutez, oui, c'est assez étonnant. Mais nous avons entendu avec plaisir le président de la République prendre la parole, dire que la France avait soutenu les efforts de recherche en matière de traitement et Xenothera en a largement bénéficié dès le début de l'année 2020, que la France avait aussi pris des risques en sécurisant les approvisionnements en traitement. Et effectivement, le gouvernement français en mars s'est engagé sur la parole du président de la République et a effectivement précommandé un certain nombre de doses de notre produit. Et il a dit, et donc un traitement sera disponible avant la fin de l'année 2021.
Alors il y a des traitements qui vont arriver là d'ailleurs.
Alors c'est pas du tout pour les mêmes patients. Donc ça, ce sont des anticorps monoclonaux, en général d'origine non française, je n'irai pas plus loin. Et ces anticorps monoclonaux, ils sont destinés aux patients tôt, c'est-à-dire au moment où ils contractent la maladie, à condition qu'ils aient aussi des risques d'aggravation, eh bien, à ce moment-là, ils peuvent prendre ces anticorps monoclonaux qui sont eux aussi d'ailleurs administrés sous perfusion à l'hôpital.
Oui, Odile Dubot, est-ce qu'il y a une bataille éventuellement avec, d'un autre côté, les grands labos qui ont mis en place des vaccins? Et je précise au passage que vous n'êtes pas anti-vax parce que vous êtes vacciné aussi, bien sûr.
Oui, absolument. Non, je ne suis pas anti-vax. Je fais partie de la génération des médecins qui savent que les vaccins ont fait énormément progresser la santé publique, donc j'ai pas de doute là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des conflits? Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Nous avons misé sur le fait que, bien évidemment, comme il y aurait une grande partie de la population qui serait vaccinée, il y aurait moins besoin de traitement. Et tant mieux. Et tant mieux. Pour une entreprise
parce
comme
que Xenothera, la vaccination quand même diminue, quoi. C'est ça les effets. Alors, ça, c'est incontestable.
Le pari, alors non, il y a une chose qui a été été démontré par les essais cliniques sur les vaccins, c'est que le nombre de cas graves diminue. Donc, le risque de cas très graves diminue. Alors, donc, le pari des experts en santé publique, hein, dont je ne suis pas, c'est de dire en vaccinant la population, on va réduire, bien sûr, le nombre de cas graves, mais aussi le nombre de personnes à l'hôpital. Donc, mécaniquement, on va réduire le nombre de gens qui ont besoin de Xav19. Mais nous, on est très contents. Il faut bien avoir en tête que depuis cette crise, il se passe quelque chose qui ne s'est pas passé depuis très très longtemps en médecine, c'est que au niveau mondial, le problème, c'est la pénurie de traitements. Il n'y a pas assez pour tout le monde. Il n'y a pas assez de vaccins pour tout le monde, il n'y a pas assez de traitements pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, le sujet n'est pas tant le fait de dire « Ah, mais on fait une compétition entre vaccins et traitements », pas du tout, c'est complémentaire. Il y a des vaccins pour les gens qui vont bien, il y a les traitements pour les gens qui sont malades. Il faut faire les deux. Et tant mieux si beaucoup de gens vaccinés égale moins de gens malades. Et s'il y a moins de traitements qui sont consommés, ben on en donnera aux autres.
Oui, mais il y a quand même encore une grande inconnue sur les variants. C'est-à-dire que là, on parle régulièrement de variants qui arrivent. Au fur et à mesure, on les démonte ou pas, mais il y a quand même une grande inconnue de se dire que il faudra bien de toute façon des traitements. Donc, ils sont importants, ces traitements.
Absolument. Les traitements sont indispensables. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que même si 100% d'une population est vaccinée, vous avez entre 5 et 10% des gens qui ne répondent pas au vaccin et qui donc ont besoin d'être soignés s'ils tombent malades. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, vous avez en permanence des gens non vaccinés, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'ils ne sont pas encore allés, etc. Mmh. etc. Mmh. Donc, de toute façon, la nécessité de traitement, elle est indispensable. Donc, je vais vous donner un ordre de grandeur. Mmh. Un seul chiffre. 30 000 Français par an vont avoir besoin d'un traitement comme le Xav19, c'est-à-dire 30 000 personnes qui vont rentrer à l'hôpital et qui pourraient recevoir du Xav19 pour éviter de s'aggraver. Ça, c'est notre estimation, sous réserve que la population française soit vaccinée à 80%.
Bien sûr.
Sinon, c'est 3 millions de gens qui vont avoir besoin de Xav19. Hein, c'est énorme.
Est-ce que vous êtes soutenu par les hôpitaux, par les scientifiques? Est-ce que vous sentez qu'il y a une émulation quand même positive pour vous aider?
Écoutez, c'est une question qui est complexe.
Pourquoi? Parce que
il n'y a pas une
solidarité scientifique et entre médecins.
Alors,
parce que vous êtes au sein d'une petite start-up, c'est ça? Vous avez
Voilà, je crois que c'est plutôt ça. C'est-à-dire que on est rentré dans un terrain de jeu qui est un terrain de jeu mondial où des acteurs avec énormément de puissance financière sont en face de nous et nous on est petits. Donc les soutiens sont aussi liés à la capacité de lobbying
ou de faire du bruit,
etc. Donc c'est plus difficile quand on est petit et qu'on joue sur un terrain où jouent des gens qui parlent fort et qui ont beaucoup de moyens, ce qui n'est pas notre cas.
Oui.
Alors, on est français, donc je pense que le président de la République a quand même beaucoup communiqué sur la Startup Nation, donc on a parlé aussi d'indépendance sanitaire, donc je crois que ça vaut vraiment la peine d'être soutenu. On a eu une bonne visibilité auprès du ministère de la Santé, du ministère de la Recherche. Aujourd'hui, le soutien, il n'est pas toujours aussi intense que ce que nous espérerions.
Ouais. Merci en tout cas, Odile Duvaux, médecin, directrice générale de la start-up Xenotera. Et je rappelle que, évidemment, vous avez fait toute votre carrière, une grande partie de votre carrière dans la recherche, même si vous avez eu quelques parenthèses, et que vous aviez été très précoce. Vous aviez décroché votre bac à 17 ans, médecine, ensuite l'ENS Ulm, bien sûr, et ensuite vous aviez rejoint l'Institut Pasteur dès 20 ans. Vous aviez été à l'époque repéré par le chercheur Jean-Pierre Changeux et vous aviez mené des travaux en neurobiologie et vous avez été récompensé
hier soir des trophées optimistes
voilà. Par le magazine Ecoréseau Business. On va en parler d'ailleurs avec d'autres lauréats qu'on va recevoir dans un instant sur Sud Radio.
Merci beaucoup.